بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بشفاء الإسلام نغمس من الله عز وجل qui nous donne la possibilité donc de nous réunir pour parler d'un thème de la croyance islamique, d'un thème concernant le aqidah, concernant la fin des temps, Ashrat al-Sa'a. Et dans l'étude des signes de la fin des temps, on avait distingué, salam wa barakatuh, on avait distingué les petits signes et les grands signes de Qiyam. Les petits signes, on avait vu hein, pas mal de signes en rapport avec la dépravation des mœurs, en rapport avec la multiplication des fitna, des sources de tentation, la perte de valeur dans la société. Et ce sont là des choses que nous constatons, que toutes les cultures, toutes les civilisations constatent. Et il y a des choses qui deviennent de plus en plus flagrantes, de plus en plus apparentes. Hein, on parlera par exemple de la consommation. La consommation excessive d'alcool est un allé ventilateur, ouais, désactement. La consommation et la banalisation hein, de la consommation d'alcool. Et quand on dit banalisation, c'est dans toutes les communautés, mais malheureusement également dans notre communauté. Et parmi ces signes également qui n'existaient peut-être pas il y a 50 ans, 60 ans ou 100 ans, également on parle de la normalisation de certaines pratiques sexuelles déviantes. Hein, et on le dit sans crainte, sans tabou, de pratiques sexuelles déviantes, sachant que les autres religions l'ont également dénoncé. Hein, la religion juive l'a dénoncé, la religion catholique l'a dénoncé. On parle bien sûr de l'homosexualité. Quand on voit que dans certains pays d'Europe, hein, le mariage homosexuel existe déjà depuis plusieurs années et que dans certains pays ils sont en phase de légaliser, j'allais dire labelliser, hein, c'est un lapsus, de légaliser le mariage homosexuel. Qui dit légaliser le mariage homosexuel dit accepter l'acte, banaliser l'acte, le considérer comme étant une vie sexuelle normale, humaine. Et ça, c'est quelque chose qui était bien sûr inimaginable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensez, il y a 1500 années, si il y avait eu un cas ou deux, ben, ça se saurait. Et tout de suite, il savait également hein, quelle était la gravité du péché et on le dénonçait immédiatement. Et le plus grand exemple que les musulmans avaient concernant l'homosexualité, c'était bien sûr l'histoire du peuple de Lot alayhi salam, avec la description hein, du adab qu'Allah les a réservé, la punition divine. Et le peuple de Lot alayhi salam a été puni comme aucun peuple n'a été puni, pour montrer vraiment que cette action là elle est détestée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand nous voyons que ce genre de péché finit par être accepté par les gens, et quand on regarde les reportages dans les actualités, il y a les personnes qui sont de cette tendance et qui souhaitent la reconnaissance, qui aimeraient qu'on les reconnaisse comme étant des gens normaux, des gens épanouis. Et il y a de l'autre côté, et ça c'est un peu plus intriguant, des personnes qui ne sont pas de cette tendance, mais au nom de la liberté, je ne dis pas la liberté d'expression, mais la liberté d'orientation de notre vie, elles disent que bon, ben, s'il y a des gens qui se plaisent dans ces pratiques, c'est quelque chose de bien, tant mieux pour eux s'ils sont heureux. D'accord ? Donc, on n'est pas là pour dire, pour critiquer ou pour porter un jugement direct sur les gens, mais par contre, on est là pour montrer que les trois religions monothéistes, les trois religions qu'Allah a révélées, et dans les trois livres révélés par Allah Azza wa Jal, ce genre d'action est totalement condamnable. Et cela va à l'encontre de la nature humaine. D'accord ? Les personnes qui sont de cette tendance, hein, on pourrait leur demander, ben imaginez que toute l'humanité adhérait à ce genre de pratique. Hein, on essaie de trouver les termes corrects. Imaginez que tout le monde adhérait à ce genre de pratique, comme vous, avec la même ouverture d'esprit. D'accord ? Si vos parents avaient adopté cette tendance, d'accord ? Ben vous ne seriez pas né. Si vos parents, na'oudou billah, avaient fait le choix d'une sexualité portée vers l'homosexualité, tant du côté des hommes que du côté des dames, vous ne seriez même pas là. Parce qu'avec l'homosexualité, il n'y a pas la procréation.
Il n'y a pas la procréation, il n'y a pas le renouvellement des générations, et il n'y a plus de vie humaine. Et donc ça, c'est déjà une preuve que ça va à l'encontre de la nature. Les animaux se reproduisent. Les animaux ont besoin de se reproduire. Il y a des périodes, on appelle ça les périodes d'amour et tout, où les couples se forment, et c'est une nécessité pour renouveler les générations. Regardez dans l'histoire de Nuh alayhi salam. Dans l'histoire de Nuh alayhi salam. Est-ce que quelqu'un fait le rapprochement avant qu'on le dise ? Quand on parle de renouvellement des générations, qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire de Nuh alayhi salam qui est marquant ? Avant le déluge, Allah Azza wa Jal ordonne à Nuh alayhi salam de réunir un couple de chaque espèce animale. Parce qu'il faut protéger les espèces. Il faut que les espèces soient renouvelées. Ça, c'est la nature de la vie. Je ne vais pas dire que la nature humaine, la nature animale. Si on dit que l'humain est un animal aussi, on verra. Mais c'est une nécessité de la nature que les générations se renouvellent. Et avec ce genre de pratique, il n'y a pas de renouvellement de génération. On va parler d'adoption, mais vous allez adopter qui ? Ils vont adopter qui ? Un enfant qui est né d'un couple, dites-le, normal. D'un couple qui a une sexualité humaine normale. Donc, on va pas, c'est pas le but hein, de parler de cela. Et un camarade qui me téléphonait hier, il me disait que, enfin, on discutait plus. Alors, Nika, c'est quand ? La semaine prochaine. Ben, t'es obligé de demander au mari qui a appelé un pélo. Avec les temps qui courent, on préfère quand même demander. C'est une plaisanterie, bien sûr. Un mari est quelqu'un de sérieux. Mais, voilà, Moustan. Et quand on voit qu'il y a certains pantins, des rigolos, qui pensent à ouvrir une mosquée, une mosquée homosexuelle, un truc comme ça. Autant ils ouvrent une boîte de nuit. Moi, je pense qu'ils ouvrent une boîte de nuit, un disco, c'est plus respectueux. Ouvrir une boîte de nuit gay, c'est plus respectueux que d'ouvrir une masjid, une mosquée qui va accueillir des homosexuels. Parce que là, on est dans l'aberration totale. Là, franchement, on marche sur les mains. Là. C'est comme si qu'on dit, dans cette mosquée, on marche sur les mains et les pieds en haut. C'est aussi aberrant que ça. C'est aussi aberrant que ça. Bref. Mais ce qui est choquant, c'est que la population finit par accepter, par banaliser ce genre de pratique. Et ça, c'est un signe de qiyam. Et ce qui est préoccupant, c'est la tentative de certaines personnes d'introduire cette conception de la vie au sein de l'éducation nationale. Et là, il faut, en tant que parents, on marque notre présence. Il est impensable qu'on fait comprendre à nos enfants qui sont en cours élémentaire, cours préparatoire, que un monsieur et une femme qui s'aiment, c'est bien. Deux hommes qui s'aiment, c'est beau. C'est possible aussi. Deux femmes qui s'aiment, c'est possible aussi. On peut avoir un couple avec deux papas ou un couple avec deux mamans. Ça, c'est un problème, ça. Il ne faut pas que nos enfants, quand ils grandissent avec cette conception des choses que c'est un choix possible. Que quand je serai grand, j'ai le choix, je peux aimer une fille ou je peux aimer un garçon comme moi. Là, c'est gênant. Et au cas où si ça se fait, ben là, il faut que nous, en tant que parents, on rectifie le discours à la maison. On ne parle pas de, on n'appelle pas vers la haine de notre prochain. Pas qu'on va dire à notre enfant, si tu vois des... Moi, j'étais à Gilo l'autre fois. Non, moi, j'étais choqué, estomaqué. J'étais parti déposer les gagnants du concours Hajj. Tout content, on va les déposer. Je vois une voiture qui s'arrête avec deux stewards. Ils descendent, ils s'embrassent sur la bouche. C'est devant moi. J'étais choqué. Je n'avais plus quoi faire. Du coup, je n'avais plus envie de leur donner le billet pour aller Hajj. J'ai dit, ben, laisse tomber, on verra l'année prochaine. C'est choquant. Hein. C'est-à-dire, c'est des choses que la fitra, la nature humaine, ne peut accepter. Et le fait qu'à un moment donné, la nature humaine l'accepte, c'est qu'il y a une perte des valeurs. Une perte d'humanisme. On peut parler de perte d'humanisme, une perte de insaniya. Et ça, c'est ce que le prophète avait annoncé il y a 1500 années, chose qui était inconcevable à cette époque, mais si cela se produit, c'est mu'ajiza, miracle, que le prophète annonce quelque chose qui va se produire 15 siècles plus tard. Donc, ça, c'est les petits signes de Qiyam. Et comme on expliquait à des élèves aussi à la madrasa, que pour croire aux petits signes de Qiyam, il n'y a pas besoin d'avoir un iman solide, parce que ce n'est pas en rapport avec l'invisible. Les petits signes de Qiyam, ce sont des choses, on va dire, presque naturelles de la société. Quand on voit les bâtiments qui s'élèvent, etc. Bon, ça, c'est des choses qui ne sont pas des péchés en soi, d'accord ? Mais la perte des valeurs, c'est des choses qu'on constate, on dit que c'est l'évolution des mentalités, mais il n'y a pas besoin de foi en l'invisible pour croire à ces signes. Par contre, pour les grands signes de Qiyama, il faut Iman Bilray. Et on avait eu l'occasion de bien développer la vue de Imam Mehdi, et on avait développé également, on avait enchaîné immédiatement après avec la venue de Al-Masih al-Dajjal, et quand on parle de Dajjal, là il faut croire en l'invisible, parce que tout ce qui tourne autour de Dajjal, c'est en rapport avec Al-Ghaib. Et là, on avait dit que c'est un signe de Qiyama, un signe de Qiyama qui est un grand signe de Qiyama qui intervient, c'est quelque chose, c'est une créature qui est en rapport avec le monde de l'invisible, qui rentre, qui fait un pas dans le monde du visible. Et le choc, on va dire, c'est un choc thermique, c'est un choc tel que l'être humain n'est pas habitué à voir des choses surnaturelles. Et là, deux catégories de personnes. Ceux qui croient que ce qu'ils voient, les cartésiens, les scientifiques, ben, ils seront bien obligés de croire ce qu'ils voient. Parce qu'ils vont bien voir des choses. Ils vont voir un homme qui ressuscite des morts, un homme qui ressuscite un papa, une maman décédée, qui atteste que c'est lui Dieu, etc. C'est des choses qu'on ne va pas répéter, qu'on avait déjà expliquées. Et puis l'autre catégorie de personnes, c'est celui qui a iman. Quand on a iman, on nous demande de croire ce qu'on ne voit pas. De croire ce qu'on ne voit pas. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. Ceux qui croient en l'invisible. Première qualité du mu'min cité dans le Coran. À la fin des temps, iman, ce sera quoi? C'est de ne pas croire ce que vous voyez. Le contraire. À notre époque, iman, c'est croyez ce que vous ne voyez pas. Ayez conviction que vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, etc., etc. Mais ayez conviction que ça, c'est Bishara min Allah, c'est ce qu'Allah a promis, wa'ad min Allah, et que ça c'est véridique. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, vous voyez d'autres choses. Vous voyez le dunya qui est attirant, vous voyez la couleur mauve du billet, la couleur jaune du billet, la couleur verte du billet, des choses palpables, la nourriture, les plaisirs immédiats, la jolie fille, la jolie femme, hein, ce qui, le joli bonhomme aussi, je ne sais pas, comme on a dit, toutes les tendances, ce qui est accessible. Mais laissez ce qui est visible pour ce que vous ne voyez pas, pour ce qu'Allah a promis dans le paradis. Ça, c'est iman du musulman, maintenant. Mais à la fin des temps, iman du musulman, ce sera le contraire. Vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez voir des miracles qu'aucun être humain normal, on ne parle pas des prophètes, aucun être humain normal n'a jamais réalisé. Mais ne croyez pas ce que vous allez voir. Ne croyez pas ce que vous allez entendre. Ne comprenez pas comme il aimerait que vous compreniez. Quand il vous dit que ça, c'est mon paradis, ça, c'est mon enfer choisi, prenez la porte qui mène vers son enfer, parce que c'est ça le paradis, c'est ça le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ces grands signes, il y a Imam Mehdi, et on avait enchaîné immédiatement avec Al-Masih al-Dajjal, l'Antéchrist. On avait dit que l'Antéchrist, également parce qu'on va parler un petit peu des autres religions, dans l'islam, on avait tout expliqué, on a dit que les chrétiens également croient en la venue de l'Antéchrist, et de la religion juive aussi, ils croient en la venue d'une personne à la fin des temps, hein, qui va les apporter des certaines choses. D'accord ? Le sujet qu'on avait commencé il y a quelque temps, c'est le troisième grand signe de Qiyama, et on pourrait dire le premier signe vraiment qui est synonyme entièrement de victoire, entièrement de nusra, d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Mehdi vient dans une époque mitigée. Imam Mehdi vient à une époque où les musulmans connaissent des difficultés. Imam Mehdi va ramener l'ordre, va redonner à cette umma son honneur, la izza, mais à la fin, lorsque Dajjal apparaît, il y a une lutte entre l'armée de Dajjal et l'armée de Mehdi. C'est-à-dire, c'est pas un ghalaba. C'est pas qu'Imam Mehdi, il contrôle tout. À un moment donné, il y a des affrontements, il y a des tensions. Il faut lutter, il faut rester ferme. Et les meilleurs des musulmans seront regroupés autour de lui, autour d'Imam Mehdi, ou ça, à Baytul Maqdis. Ils sont minoritaires, d'accord? Mais ils lutteront, ils vont résister. Mais quand on parle du troisième grand signe, de Isa alayhi salam, on va dire que c'est que du bonheur. Que de la nusra, que l'aide d'Allah. Parce que ce n'est pas n'importe qui qu'Allah envoie sur terre. Allah envoie un de ses anciens prophètes. Et pas n'importe quel prophète, un des ulul azmi minar rusul, un des grands prophètes. Avec Muhammad alayhi salatu wasalam, Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, et donc lui, Isa alayhi salam. Donc, la venue de Isa alayhi salam, c'est pour mettre fin totalement au règne de Dajjal. Et avec une facilité déconcertante. Avec une facilité déconcertante. Dajjal, créature d'Allah. Isa alayhi salam, créature d'Allah. Mais Dajjal réincarne le mal. Dajjal est créé pour le mal, pour éprouver les gens. Isa alayhi salam, prophète d'Allah, rien à dire, créature d'Allah. Isa alayhi salam réincarne le bien. Il est là que pour la baraka, déjà à son époque, en tant que prophète. Nabiullah, rien à dire, donc, propage la vérité. Il faisait des miracles qui apportaient du bonheur aux gens. Isa alayhi salam, c'était synonyme de bonheur pour les gens à cette époque. C'était un homme qui pouvait guérir les gens atteints de cécité, les gens aveugles, qui pourrait guérir le lépreux, qui faisait des miracles à une époque où la médecine avait atteint son apogée. À l'époque de Jésus-Christ, de Isa alayhi salam, la médecine était vraiment la science la plus adulée dans toutes les civilisations. Et un homme qui vit à cette époque, à l'époque où il paraît même, quand on écoute certains scientifiques, certains professeurs à l'école plutôt, ils disaient qu'à l'époque des Romains, ils savaient mieux diagnostiquer les maladies qu'à notre époque. Pas bien soigné comme à notre époque, mais le diagnostic était beaucoup mieux. Bon, ça il faut voir avec ceux qui font des études de médecine, pourquoi. Ils avaient des méthodes qui appuient aujourd'hui. Par exemple, on ne va pas entrer des détails, l'analyse de l'urine. Vous pouvez regarder la couleur de l'urine d'une personne et dire exactement de quoi la personne souffre. Vous avez cette histoire, à une époque, vous pouvez même, en fonction, en regardant l'urine d'une personne, savoir combien de temps lui reste à vivre aussi. À quel stade de la maladie la personne est arrivée et il reste combien de temps, est-ce qu'il est vraiment en phase, c'est un terme nouveau, terminal, mais que la personne va bientôt mourir. Bref, en termes diagnostiques, ils étaient vraiment très compétents, très forts. D'accord ? Et Isa alayhi salam, à cette époque, vient avec des choses qui dépassent l'entendement humain. Ce sont là des miracles. Donc, Isa alayhi salam, à son époque, il était synonyme de bonheur pour les gens. À l'époque où il va donc revenir, il sera également synonyme de bonheur et synonyme de nusra. Parce qu'il n'y aura pas de lutte entre lui et Dajjal, contrairement à Imam Mehdi. Imam Mehdi doit lutter contre Dajjal. Et Isa alayhi salam n'a pas besoin de lutter contre Dajjal. Il est un tel level, un tel degré, que Dajjal n'est rien auprès de lui. Et le hadith dit bien, hadith qu'on avait déjà cité en boucle avant, que lorsque Dajjal le voit, il meurt immédiatement. Il fond comme le sel se dissoudant dans l'eau. Mais Allah décide de garder Dajjal en vie. Vous voyez la facilité déconcertante. Il suffit que Dajjal, l'antéchrist, voit Jésus-Christ, voit Isa alayhi salam, pour qu'il meure immédiatement d'un simple regard. Certains commentateurs de hadith disent qu'il y a un parfum qui émane de Isa alayhi salam qui est insupportable pour les kuffars, pour les incroyants, pour les ennemis d'Allah. Et donc Dajjal normalement doit immédiatement se désintégrer à la vue de Isa alayhi salam. Mais Allah décide de laisser Dajjal en vie, afin que Isa alayhi salam, il n'y aura pas une lutte. Et Isa alayhi salam dira juste, ça c'est un rappel, ouvrez les portes de la masjid Aqsa. Et là, Dajjal ne s'attendait pas à le voir à l'intérieur. Ce même homme qui prétend être Dieu, qui prétend pouvoir donner la vie, ressusciter les morts, etc., etc., il ne sait pas qu'il y a derrière une porte. C'est-à-dire qu'on avait vu qu'à la fin, Dajjal n'a plus de pouvoir. Quand est-ce que son pouvoir s'arrête? Quand il défie ce jeune homme de Ahlul Madina, ce jeune homme qui habitait à Médine et qui va le cueillir à la frontière et qui va le défier, qui va dire que tu es l'antéchrist et que Dajjal lui donne la mort, le tranche en deux, que son corps est séparé en deux et qu'il marche entre les deux parties du corps de la personne pour montrer aux gens que je lui ai donné la mort. Il va maintenant prouver que je suis Dieu, na'oudou billah, parce que je peux lui donner la vie, et il lui donnera la vie. Les deux parties du corps vont se recoller, le ruh va revenir dans le corps de ce jeune homme, et ce jeune homme va se mettre debout, va se mettre à parler, devant l'admiration de tous les disciples de Dajjal, qui vont voir à travers cet acte que c'est vraiment un être divin. Mais ce jeune homme, il va dire que, avec ce que tu viens de faire, il voulait quoi lui? Prouver qu'il est Dieu. Mais ce jeune va dire qu'avec ce que tu viens de faire, tu m'as encore plus convaincu que tu es Dajjal. Car le Nabi alayhi salatu wassalam nous a annoncé il y a tant d'années qu'un homme viendra et il accomplira ce que tu viens d'accomplir. On a encore plus de iman yaqin, de conviction que tu es Dajjal. Ce jeune homme, iman bil ghaib, de le cœur, il ne croit pas ce qu'il est en train de voir. Il croit ce qui a été révélé il y a 1500 ou alors cette époque, je ne sais pas, ce sera 1600, 1700, 1800 années. Croire en des textes anciens plutôt que de croire ce qu'il est en train de voir, de croire ce qu'il vient de vivre. Il a vu son sang couler, il a vu ses os broyer, il a vu son corps séparé en deux et se recoller, son sang se coaguler, sécher, ses plaies se refermer comme par miracle. Mais il ne croit pas à tout ça. Pour lui, ça c'est l'œuvre de Dajjal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Donc, Isa alayhi salam n'a pas besoin de lutter contre Dajjal. Parce qu'on va dire également qu'à l'époque, cette époque-là, Dajjal n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir surnaturel. Mais par contre, il y a une armée blindée. Il a une armée énorme. Il a une armée extrêmement puissante qui l'accompagne. Les 70 000 personnes que j'avais déjà expliquées qui vont l'accompagner. Mais Isa al-Islam, il se contente de dire aux musulmans que quand il descend, on avait déjà expliqué, à Dimashq, la mosquée de Damas, minaret blanc, lorsqu'il descend, il va rencontrer les musulmans qui sont avec Al-Mahdi, en train d'officier la salah, et après la salah, le khilaf, il donne le Mahdi, transfère, on va dire, les pouvoirs à Isa al-Islam, et là, Isa al-Islam, il y avait un texte magnifique qu'on avait cité deux fois, et Isa al-Islam va réconforter les mu'mines qui ont su rester fermes. Et il va passer sa main bénie sur leurs joues, essuyer leurs larmes et dire et leur annoncer qu'Allah vous a réservé tel daraja, tel degré dans le paradis. Il va annoncer à ces gens quels sont vos degrés dans le paradis. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait, c'est énorme. Vous avez su rester ferme, vous avez su résister à une fitna que le prophète sallallahu alayhi avait annoncé, que Isa alayhi salam avait annoncé, que Moussa alayhi salam avait annoncé, que Nuh alayhi salam, que tous les prophètes avaient annoncé. Parce que hadith dit bien que tous les prophètes avaient parlé à leur peuple de la venue d'un homme à la fin des temps, c'est Ad-Dajjal. Mais le seul qui avait les descriptions, c'était Isa alayhi salam, un peu, et beaucoup plus, le maximum, le plus de sens, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les prophètes ont pris soin de mettre en garde les gens que, attention, une époque viendra, telle chose. Et vous avez vécu ce fitna. Vous l'avez vécu. Et vous avez résisté. Vous êtes resté ferme sur votre foi. Et donc, il va les féliciter et les annoncer quel est leur degré dans le paradis. Et ensuite, il va demander à ce que les portes soient ouvertes. Et là, Dajjal va le voir et Dajjal va s'enfuir. Dajjal va s'enfuir parce qu'il sait qu'est-ce qu'il attend. Il sait que ça, c'est son destin. Il sait que c'est là qu'il va mourir. Mais il ne veut pas. Il sait qu'en voyant Isa alayhi salam, il meurt immédiatement. Il va s'enfuir et Allah ta'ala va ordonner à Isa alayhi salam donc de prendre une lance. Et le hadith qu'on avait expliqué, avec cette lance, il va transpercer le corps de Dajjal. Et le sang de Dajjal va couler. Pourquoi? Afin que tout le monde voit que ce n'était qu'un homme. Ce n'était qu'un être humain. Ce n'était pas un dieu. Et les gens vont voir celui qu'ils considéraient comme na'oud billah étant un dieu tomber et mourir devant eux. Donc dès les premiers jours, je ne sais pas si on peut parler de jours, ou les premières heures du retour de Isa alayhi salam, c'est Nusra. Ce fléau de l'humanité, il est débarrassé en un clin d'œil par la baraka, par la Nusra qui vient avec Jésus-Christ, Isa alayhi salam, le retour de Isa alayhi salam. Et on avait pris le soin d'expliquer également la dernière fois que lorsque Isa alayhi salam revient, il revient en tant que ummati, en tant que personne appartenant à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait émis ce souhait un jour de faire partie de cette umma, et Allah ta'ala va l'accorder, on le dit, ce cadeau, parce que c'est un cadeau que d'être dans la communauté du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On avait expliqué également la dernière fois pourquoi lui, pourquoi pas quelqu'un d'autre. On avait cité quelques raisons et il y avait une raison que j'avais oublié de citer et là ça me revient. Tout être humain qui vient de ce dunya doit mourir. Et le seul qui n'est pas mort, c'est Isa alayhi salam. Il n'est pas mort, il a été élevé. Donc il est opportun qu'il revienne pour mourir. Et donc quand il va revenir, il va mourir. Et quand il va revenir, il va combattre Dajjal. Et il va avoir également une vie de famille. C'est un des seuls prophètes qui ne s'était pas marié. Et donc il va se marier, avoir une vie normale. Et ensuite mourir comme tout être humain et être enterré comme tout être humain. Ah, bah. Donc ça c'était la parenthèse. Et donc on avait bien expliqué qu'il vient en tant que ummati appartenant à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait vu pas mal de textes qui prouvent qu'il va inviter les gens vers le Coran. Et lorsque les Nasara, lorsque les chrétiens à son époque vont voir Isa alayhi salam, ils vont tous porter iman en lui. Tous les chrétiens, tous les Nasara vont reconnaître Isa alayhi salam et ils vont avoir iman en lui. Donc ils vont devenir des mu'minin comme nous, exactement comme nous, en acceptant la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pour ça que le Coran on dit que les gens les plus proches, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara. Les gens les plus proches de ceux qui ont la foi, des Ahlul Iman, ce sont ceux qui se disent nassar. D'accord ? À la fin des temps, ils vont accepter le din de Isa alayhi salam, le din du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme le dit le verset, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawti. Alors, on a déjà fait combien de temps ? 25 minutes, on va faire encore 5 minutes, Inch'Allah. Il y avait également un hadith, ça on n'avait pas cité l'autre fois, hadith de Amr bin Aouf al-Muzani, radiallahu anhu, il dit, « Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam » dit qu'on était dans une campagne avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est arrivé à un endroit qui s'appelait Al-Rawha, et le Prophète est arrêté, s'est arrêté à cet endroit, et « Wasalla » il a fait 2 rakats de prière à cet endroit. Il a dit « Salla qabla » صلى قبلي في هذا المسجد 70 نبي dit à cet endroit avant moi il y a 70 prophètes qui ont prié donc à cet endroit et ولقد قدمها موسى عليه السلام et Moussa عليه السلام également est venu à cet endroit et avec 70 000 personnes des Banu Israël. Et là, ce qui nous intéresse, ولا تقوم الساعة حتى يمر بها عيسى بن مريم. Et le Qiyama n'aura pas lieu tant que Isa alayhi salam ne viendra pas, ne retournera pas de ce dunya et viendra, et il passera à cet endroit, hajjan ou mu'tamiran ou yajma'u Allah dhalika lahu. Et il viendra dans sa route vers le Hajj ou vers l'Umra, il passera dans cet endroit, dans cette localité. Et les ulama disent que ce texte est un des textes encore qui prouve que Isa alayhi salam va suivre notre dîn, notre sharia, parce qu'il a accompli l'Umra, il a accompli le Hajj, comme le prophète alayhi salat wa salam l'accomplissait et l'ordonnait dans sa umma. Et le hadith également qu'on avait oublié de citer la dernière fois, le prophète dit « وَلَا يَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيَّ » Et le prophète dit qu'à la fin des temps, lorsque Isa al-Fan viendra, mais ça on peut considérer que c'est à la fin, quand il a déjà tué Dajjal, quand vraiment, et puis, quand on parlait tout à l'heure de bonheur à l'époque de Isa al-Salam, on a oublié bien sûr Gog et Magog, mais ça c'est un autre thème, donc ça on peut faire garder pour le quatrième signe, celui qui va délivrer l'humanité de Ya'juj ou Ma'juj sans lutte, sans affrontement, uniquement en levant les mains. Uniquement en levant les mains, il va provoquer la destruction de ce peuple tyrannique, ce peuple de guerriers. On verra quand on étudiera Inch'Allah Gog et Magog, c'est des tueurs, c'est des tueurs. Jamais l'humanité n'a connu des gens sanguinaires comme ça. Ils tuent tout sur leur passage. D'accord ? Et en levant les mains, Isa alayhi salam provoque la destruction de ces gens, et en levant les mains, il permet à la Oumma d'être débarrassée de leur cadavre qui va polluer l'humanité. Une population, Gog et Magog, plus nombreuse que la population humaine. Les Gog et Magog sont plus nombreux que les êtres humains. Il y a combien d'êtres humains sur la Terre en ce moment ? 7 milliards à peu près, d'accord ? Ils sont plus nombreux. On verra dans les textes qui décrivent Gog et Magog, leur nombre, leur force, leur puissance, hein, qu'un enfant, Gog et Magog, quand ils sont encore petits, ils savent déjà se battre, monter à cheval, etc. Bref, ça on verra par la suite. Et Isa alayhi salam, en levant ses mains basses, il provoque la destruction de ces gens. Pour Dajjal, un regard est suffisant pour détruire Dajjal. Pour Gog et Magog, il lève les mains. Vous voyez la puissance de cet homme. Mais ce n'est pas sa force à lui, c'est la Nusra qu'il réincarne. C'est l'aide d'Allah qui vient avec cet ancien prophète qui revient dans ce dunya. Et donc, ça me dit qu'il viendra près de ma tombe, donc à Medina. Donc ça c'est vraiment à la fin, quand il y aura certainement, ce sera après Gog et Magog, c'est à l'époque de la Baraka. Le bonheur, c'est quand il en finit avec Dajjal. Le bonheur, c'est quand il en finit avec Gog et Magog. Et le bonheur surtout, c'est, selon certaines sources, on parle de 7 années, c'est 7 années de bénédiction que l'humanité va connaître à l'époque de Isa alayhi salam, quand le deuxième et le quatrième grand signe seront terminés, quand il n'y aura plus Ad-Dajjal et plus Gog et Magog, et que Isa alayhi salam sera le Amir al-Mu'minin, l'humanité va connaître une période de stabilité et de bonheur. Il n'y aura plus la crise, hein. Il n'y aura plus de crise, hein. Il n'y aura plus de problème. Une telle prospérité que jamais le dunya n'aura connu. La baraka à l'époque de cet homme, quand cet homme-là sera Amir jusqu'à jusqu'à sa mort. Donc, on peut considérer que ça, c'est vraiment la fin, quand il est le Amir, qu'il n'y a plus de fitna. Hein, Isa a.s. ira à Madina al-Nabawiyya, et il ira près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire le salam au prophète alayhi wa sallam, wa aruddanna alayhi, wa la aruddanna alayhi, et je vais lui répondre le salam. Le hadith dit bien, je vais répondre à son salam, tout simplement. Là aussi, ça, on ne va pas entrer dans trop de détails. Hein. Ce n'est pas comme certaines histoires un petit peu paranormaux, hein, des activités paranormaux qu'on entend dans certains discours. Où on dit, le gars est parti côté la tombe du prophète, une main est sortie, et puis il a dit, piétinez-moi par humilité. Bon, écoutez, racontez à d'autres. Hein. Nous, dans notre dîne, on a des choses cohérentes. Nous, on a qu'à Allah, on a qu'à le Rasoul, on a les actions des Sahaba. On a les qualités des tabi'in, des tabi'in, on a les grands savants de l'islam, mais personne n'est venu avec de telles fantaisies. Genre, une main sort de la tombe pour le saluer, pour répondre au salam, à d'autres religions, on peut raconter ça, à d'autres croyances, si vous voulez, mais pas din l'islam. Ça, c'est une religion naqi, nazif, pure. Ce din-là, il est pur, il est protégé par Allah. Le Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, Allah protège le Qur'an. Personne ne touche au Qur'an. On peut tuer tous les musulmans, mais le Coran est intouchable. Combien de grandes puissances savent que... Regardez l'histoire des caricatures. Alors après, on revient au texte. Regardez l'histoire des caricatures. Ils essaient de toucher la Oumma en insultant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le font. Ils l'ont fait avant. Ils viennent le faire. Ils le referont encore. Ça va se perpétuer, ce genre d'insultes et tout. Ça va se faire. Mais le Coran... Pourquoi ils ne le font pas? Ça ne vient même pas à leur esprit de le faire. Parce qu'Allah ne le permet pas de faire. Alors que c'est facile ça. Vous ouvrez une imprimerie, vous changez le programme, vous prenez un Coran, vous changez des mots, vous faites des modifications, vous imprimez à 2 milliards d'exemplaires, vous envoyez en format PDF sur tous les ordinateurs du monde, vous en faites un virus, vous le transmettez à toutes les personnes qui ont des ordinateurs, Windows, même les Mac, on trouvera une solution un jour pour avoir des virus. Bref, on pourra le faire. Techniquement, humainement, c'est faisable. Mais divinement, c'est impossible. Allah n'autorise pas. Allah ne laisse personne toucher le Coran. Parce que le Coran, c'est kalamullah, parole d'Allah. Ils ne rigolent pas avec. Même s'ils veulent modifier, ils ne peuvent pas modifier. C'est comme si ils essaient, même s'ils bougent, leurs mains ne peuvent pas attraper ça. Ça, c'est imposé. Parce que ça, c'est une protection garantie par Allah. Comment ça aurait été simple pour eux de le faire? Avec comment ils excellent en imagination quand ils veulent faire du tort à l'islam? En inventant des histoires, en inventant des mythes, hein, on ne va pas entrer dans les détails. Mais ça, c'est comme si ils n'y avaient pas pensé. Normal, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est protégé par Allah. Et Allah protège également les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quelle manière? En accordant à cette umma une science qui s'appelle le ilm de al-isnad, al-asanid, les chaînes de narration. Avec ça, c'est quelque chose qui n'existait pas chez les Nasara et les Yahoud, que chaque parole qu'on dit du din a une source. On le ramène à tel sahaba qui revient pour ça. C'est-à-dire que cette religion-là, elle est basée sur des piliers. Il y a des choses, tout est sûr, tout est vérifiable, tout est vérifié. Il n'y a pas d'histoire. Il peut y avoir des histoires miraculeuses, mais qui doivent être conformes au aqida, qui doivent être conformes aux croyances du musulman, qui doivent être conformes au texte du Coran et au texte des hadiths. Donc, pourquoi on a dévié jusqu'à cette anecdote? Parce que c'est des anecdotes qu'on aime bien, ça. Les gens, ils aiment, ils racontent des trucs terribles comme ça. Ah, ils bougent, ils crient tout, parce que c'est extraordinaire. Dire que dans la tombe, dans le qabr, la tombe se resserre, les côtes, hein, ils vont entrer les uns dans les autres pour tel péché. Oui, mais ça tout le temps, il dit dans le talim, ça arrête un peu, tout le temps, mêmes affaires. Mais ça c'est Nabi sans salam qui a dit. Alors quand quelqu'un vient vous dire une histoire extraordinaire, l'enterre le boug, un gros serpent l'a amené, ça pique Ali et tout, et puis le boug a dit pique pas moins et tout, après il dit ben non, il enterre pas, la terre là elle est pure, enterre l'autre côté, le côté le gros serpent, il est toujours là, il est partout. Et puis quand on découvre que l'histoire était faux, après ils sont embarrassés. Il y a dans les hadiths, il y a des descriptions effrayantes de la tombe. Mu'min billah, le musulman qui croit en Allah, il croit en les textes, il doit se raccrocher à ça. Ça c'est la force de notre din. Si on commence à laisser entrer n'importe quelle croyance, n'importe quelle parole, n'importe quel penseur, n'importe quel islamologue, hein, qui a une approche de l'islam un peu plus... On perd ce trésor qu'Allah nous a accordé. La protection des textes. Donc, pour revenir... Parce qu'on disait, Isa alayhi salam, preuve hein, qu'il suit la religion du prophète, il vient près de la tombe du prophète, il va faire le salam, et le prophète alayhi salatu wassalam va répondre à son salam. Question, comment reconnaître Isa alayhi salam? Le physique, la morphologie, la physionomie de Isa alayhi salam. Si on demande à une personne de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît quelle était sa grandeur, on connaît comment était son nez. On parle de nez aquilin, c'est le texte, c'est l'adjectif qui est utilisé, un nez fin, et on connaît. On a la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Il y a les textes, hein, et en général on connaît. Mais Jésus-Christ, Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 4 ou 5 sifats qui sont cités. Hadith d'Abu Huraira dit que quand il viendra, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعْرِفُوهُ, lorsqu'il viendra, reconnaissez-le. Et là il va décrire, فَإِنَّهُ رَجُلُ الْمَرْبُوعِ, c'est un homme de taille moyenne. Marbou' ça veut dire moyen. Le prophète alayhi salatu wassalam également était de taille moyenne. Et les savants disent que le prophète ne devait pas être de taille courte pour pas que les gens se croient supérieurs, mais ne devait pas être trop grand ou si trop long. Si les gens ils faisaient 1m75 ou 80 et lui faisaient 2m, c'est un exemple, hein. C'est-à-dire on ne se reconnaît pas à travers la personne. Il dit qu'il était de taille moyenne parce que vraiment c'est quelqu'un qui devait être parmi les gens. Il y a un texte qui dit, Adib, hein, dit, mais quand il était dans un groupe de personnes, il paraissait toujours plus grand que les autres. Même s'ils étaient de la même taille, il dit, mais quand le prophète était dans un groupe de gens, quand on le regardait, c'est comme si qu'il était plus grand. C'est-à-dire vraiment, c'est l'aura qu'Allah lui a donnée par rapport à ce qu'il dit, par rapport à sa foi, tout ce qui se dégage de lui, mais même physiquement, il devenait du coup plus impressionnant. Mais il ne devait pas être un colosse non plus, excusez-moi, quelqu'un de grand, de costaud, parce que les gens ne se reconnaissent pas en lui. Les gens ne se reconnaissent pas, il ne doit pas être une personne qui est timide, qui fait peur. Allah l'a créé de la meilleure des façons, de taille moyenne, que tout le monde se reconnaît en lui. Et Isa alayhi salam également sera de taille moyenne. Ça c'est la première description. Il a al-hamarati wal-bayab, la couleur de sa peau. Isa alayhi salam n'est pas asmar. Asmar c'est quoi? Asmar c'est brun. Brun comme notre frère qui vient de s'endormir, ça c'est brun, d'accord? Encore pas trop brun, comme notre frère Bangui, brun asmar. Les Arabes, en général, ils sont asmar. Vous avez déjà vu des bédouins? Les bédouins, hein, ils sont un peu comme les Indiens, mais bien foncés. Il y a dans certaines tribus bédouines, on parle d'Arabes, il y a des Arabes qui sont plus blancs, des Arabes qui sont plus foncés. On ne parle pas de noir, ce n'est pas la couleur de peau noire, non. C'est un brun prononcé, un peu comme les Arabes du Golfe, d'accord? Il n'a pas la peau foncée. Isa alayhi salam est un homme de peau claire, de peau blanche, qui tend vers il al-hamra, qui tend vers le terme français, c'est pas rouge, mais un blanc, vous voyez un peu les gens qui sont blancs et qui sont, ça tend un peu vers le couleur rosé, on pourrait dire. Mais Isa alayhi salam, déjà, on sait que c'est un homme de peau blanche. Et essayez de penser aux reliques, hein, quand on voit Jésus-Christ représenté, c'est à peu près ça. D'accord? Yanzilu Baina, le prophète est décrit, bon, ça c'est pas une description physique, il est décrit que Isa alayhi salam, hein, bon, ça c'est vraiment la vision, quand il descend, c'est entre deux personnes. Il est accompagné de deux personnes, c'est deux anges, hein, les mains posées sur les épaules de deux anges et deux pièces de tissu. Mais ça c'est pas une description physique, on continue. Le prophète dit également dans notre hadith, les Anbiya sont tous des frères. Ils sont tous frères, wa dinuhum wahid, et leur religion est unique. Et il dit, wa ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam, je suis le plus proche de Isa alayhi salam, car il n'y a pas eu de prophète entre moi et lui. Et là, il décrit, fa idha ra'aytum fa'rifuhu fa innahu rajul marbu' ila al-hamrati wal bayad, c'est un hadith, et il y a un terme sabit. Et c'est des mots arabes un petit peu compliqués, en commenté dit, ay na'im ash-sha'r, il a les cheveux lisses. Et dans d'autres hadiths, on décrit que ses cheveux sont grands. Dans certains hadiths, on parle des cheveux qui arrivent jusqu'à ses épaules. Donc, quand je vous dis qu'on voit les représentations, ça correspond. Ça correspond. Et subhanallah, si ces gens-là lisaient nos textes, lisaient nos hadiths avec nos chaînes de narration, avec des sources solides, ils verraient que subhanallah, c'est la description de notre prophète. C'est-à-dire de le prophète de Jésus-Christ, de Isa alayhi salam. La manière dont il est représenté, bon, nous n'acceptons pas de représentation. Vous savez, même chez les chrétiens, à l'époque, la représentation des êtres humains, des êtres vivants, était interdite. C'est après, on avait expliqué une fois après le décès de Constantin, je crois le Constantin IIIe du nom, que le roi était donc décédé, et que c'est sa femme qui avait un laps de temps le pouvoir, quand il y avait le concile des mouftis, on veut dire des grands évêques, je ne sais pas si on appelait ça évêque à l'époque, hein, ils décidaient de d'apporter des choses à la religion. Et comme cette reine, elle aimait les représentations humaines, elle a demandé à l'ensemble des prêtres présents de tolérer, d'accepter, d'introduire ça dans la religion, c'est-à-dire littéralement de changer la religion. Et c'est là que les reliques sont apparues dans les églises. Alors qu'à l'époque, ils ne représentaient jamais, ils n'auraient dessiné, et ils s'en laissaient par respect, et sachant que c'était une chose qui était interdite à la base. Et donc, les cheveux lisses et les cheveux longs dans d'autres versions. Ka'annama kharajamin, hein, ça c'est des mots vraiment dieux, daimas, en commentaire dit, c'est comme un homme qui sort, ay al-hammam, comme quelqu'un qui sort d'un bain. Et dans d'autres sources, comme un homme qui sort d'un bain chaud avec les cheveux encore mouillés, les cheveux, parce que lorsqu'il a été trahi et lorsqu'Allah l'a élevé vers les cieux, il venait de prendre un bain. Et c'était comme si que le temps s'était arrêté. Que lorsqu'il revient sur ce dunya, c'est exactement comme la situation initiale avec les cheveux encore mouillés, l'eau qui s'écoule encore de ses cheveux. Il dit que les gouttes d'eau, hein, il dit quand, وَإِذَا رَفَعَهُ lorsque là on revient à la description quand il descend. Il dit qu'il descend au niveau de du minaret blanc de la mosquée à l'est de Damas avec deux pièces de tissu. Il a, on va dire, c'est comme des toges, on pourrait dire. À l'époque, c'était ce qu'il mettait. On va dire pas comme, on va dire peut-être comme deux pièces de ihram, on va dire deux pièces de tissu blanc, mais un blanc qui va vers le jaune un petit peu. C'est pas du jaune, mais un blanc, je sais pas comment on appelle ça, un blanc cassé, je sais pas comment on pourrait dire, un blanc qui est entre le blanc et le jaune un petit peu, d'accord. Et wad'an kaffayhi ala ajnihati malakain, avec les deux mains posées sur les épaules de deux anges qui l'amènent en bas. Et lorsque il baisse sa tête, les gouttelettes d'eau tombent, et lorsqu'il se relève, hein, il dit que c'est comme des perles. L'eau, c'est comme des perles brillantes illuminées. Ça, c'est une description de la beauté de Isa al-Islam. Fala yahillu li kafirin yajidu riha nafsi illa mat. Il dit que le mécréant qui est proche, qui s'approche de lui, par rapport au parfum qui s'émane de lui, le mécréant ne peut résister, ne peut survivre. Hadith ibn Umar radiallahu anhu dit que Prophète m'a dit, j'ai vu Ra'aytu Isa wa Musa wa Ibrahim. J'ai vu, donc ça c'était pendant le voyage nocturne, Isa, Musa et Ibrahim. Et là il décrit que Isa, il était, comme on a dit, blanc qui tend vers le rouge Ahmar. Et autre description, Aridu Sadri. Alors Aridu Sadri, hein, peut-être qu'il faut un peu plus creuser le terme arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Arid, c'est large. Sadr, c'est la poitrine. Donc il avait une poitrine, on va dire que une cage thoracique impressionnante, quelqu'un de, je ne sais pas le bon terme, il était large quoi, était costaud. Et bon, mais ça, le terme là, je pense qu'il faut retravailler un petit peu. Mais en commentaire, les gens, celui qui écrit le livre, il dit que le fait d'avoir, yaqul aridu sadri wa hadha min kamal al ajsam, le fait d'avoir une cage thoracique large, ça fait partie de la beauté de l'homme. Ça fait partie de la beauté de l'homme. Vous voyez, si quelqu'un il est tout petit, tout maigre, sans critiquer les gens maigres, hein, bon, c'est machin, mais quand quelqu'un il est plus large et tout, ça donne une impression de beauté. Parce que c'était un homme d'une grande beauté. Et autre description, bon là, c'est pas des choses qu'on va reconnaître. Le prophète était assis avec les sahaba, il explique comment était Isa. Il dit « Ra'aytu Isa, j'ai vu Isa ibn Maryam, fa'idha aqraba man ra'aytu bihi shabaha Urwa ibn Mas'ud. » Il a dit « Celui qui le ressemblait le plus de cette assemblée, c'était Urwa ibn Mas'ud. » Et donc quand les sahaba voyaient Urwa ibn Mas'ud, c'est comme si qu'ils voyaient Isa a.s. Un hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, hadith qu'on vient de citer de Tirmidhi de Muslim. Il dit, le prophète dit qu'à la fin des temps, Allah Ta'ala enverra Isa ibn Maryam, ka'annahu Urwa ibn Mas'ud, il dit qu'il ressemblera à ce sahaba Urwa ibn Mas'ud. Donc en résumé, et le commentateur dit que Urwa ibn Mas'ud était un sahaba qui était connu pour sa beauté et pour être quelqu'un de très soucieux de son apparence. Quelqu'un qui était toujours propre, toujours parfumé, qui était soucieux de son apparence. Et donc en résumé, description physique de Isa alayhi salam, donc un homme de taille moyenne, un homme avec une cage thoracique, quelqu'un de un coffre on pourrait dire, hein, je cherche le mot, bien large, d'accord, avec donc le teint, il est blanc, qui tend un peu vers le rouge, des cheveux lisses, des cheveux longs, d'accord. Lorsqu'il descend, il a deux pièces de tissu de couleur blanc qui tend vers le jaune. Il descend à la mosquée minaret de la mosquée de Damas en Syrie avec les mains posées sur des anges, d'accord, et avec les cheveux qui sont encore mouillés, hein, qui coulent encore l'eau du bain qu'il avait pris lorsqu'il a été trahi, lorsqu'il a été élevé vers le ciel. Donc, là, on a bien vu la description physique de Isa alayhi salam, c'est important pour ceux qui le verront peut-être, d'accord? Et on a vu, on a rappelé que Isa alayhi salam donc va suivre la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'amir, mais il va suivre la charia. Et vraiment, ce qu'on doit retenir hein, de cette description, de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est le respect énorme que nous, musulmans, avons pour cet homme, pour Isa alayhi salam. La considération que nous lui accordons. On peut dire clairement que nous avons plus de respect pour Isa alayhi salam que ses propres adeptes ont pour lui. Parce que ceux qui le suivent l'ont respecté, mais malheureusement, ce respect-là a dévié en culte, devenu une adoration. On lui a attribué des attributs donc divines, chose que Isa alayhi salam va réfuter le jour des comptes. Lorsque la taille du Coran a antaqulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah, est-ce que c'est toi qui a dit de me considérer que de donner d'être attribut de divinité, etc. Isa alayhi salam dira que tant que j'étais parmi eux, j'ai plus le verset, ça me revient pas. Tant que j'étais parmi eux, j'étais capable de. Hein, tant que j'étais parmi eux, ils étaient sur le droit chemin. Mais oh Allah, quand tu m'as repris après ce qui s'est passé, hein, vous seul vous savez. Donc Islam va réfuter hein, ses aqidas, ses croyances déviantes concernant sa personne. Et nous, mu'mines, nous avons un respect énorme pour Isa alayhi salam en tant que prophète, en tant que ulul azm, en tant que réincarnant le bien et réincarnant la fath, l'ouverture à la nusra d'Allah à la fin des temps. Et encore une fois, on dit, le retour de Isa alayhi salam, c'est synonyme de bonheur et de tranquillité, d'apaisement pour l'humanité. Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq de comprendre donc ces quelques paroles. Inch'Allah, bon, chose qu'on devait faire aujourd'hui, on n'a pas pu faire. On va voir la prochaine fois. Mais c'est un sujet un petit peu compliqué, je ne sais pas comment l'aborder. Est-ce que ça peut être mal pris aussi? Une étude comparative des religions, comment est-ce que les Nasara considèrent le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que les Nasara considèrent Isa alayhi wa sallam, et comment est-ce que les Nasara comprennent le retour de Isa alayhi wa sallam. Mais ça encore ça va. Comment les Yahoud considèrent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment ils considèrent Isa alayhi wa sallam, et quelle est leur croyance sur le retour de Isa alayhi wa sallam. Et on va voir également, enfin on verra, soit on voit, soit on zappe, on verra en fonction des textes que nous avons, comment est-ce que les Yahoud et les Nasara, hein, ils sont arrivés vers leurs croyances, hein, qui se sont déviés de ce qu'Allah a révélé.